KF Business, 30 minutes pour aller choper les clés de la réussite d'un entrepreneur. Aujourd'hui, on a Anis qui est avec nous. Ça va, Anis ?
Écoute, ça va et toi ?
Super bien, merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec grand plaisir.
Anis de Egonix. Egonix, en une phrase, c'est quoi ?
Egonix, c'est une alternative aux cartes de visite papier. L'idée, okay, c'est de proposer une carte connectée qui permet en fait de retrouver tous tes contacts et de pouvoir y attribuer un contexte. Le tout en mettant à jour ton profil quand tu le souhaites, donc c'est éco-responsable.
Ah, il est bon, il s'est pitché. Anis, c'est vrai que donc là, on a compris rapidement ce que c'était ton projet. Souvent, on dit dans l'entrepreneuriat qu'il faut partir d'un pain, donc d'un problème, et souvent, c'est la meilleure manière finalement de porter un projet qui peut fonctionner. Ton pain à toi, c'est quoi ? Pourquoi tu t'es lancé dans ce business des cartes de visite ? À quel moment tu t'es dit, là, il y a une opportunité ?
C'est une très bonne question. Moi, là-bas, j'étais commercial pour plusieurs startups. Et donc, okay, j'allais dans plein d'événements, aller un peu prospecter, trouver de nouveaux clients. Et fondamentalement, dans les événements, la plupart des gens utilisent des cartes de visite papier. Le problème, c'est qu'au bout de 2-3 jours, soit on les perd, soit on les oublie. Et en fait, les opportunités business se perdent un petit peu. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse encore continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais une analyse de marché. Je vois un peu tout ce qui existe dans le marché, ou dans le monde entier. Et la première chose que je fais, c'est que j'analyse tous mes concurrents. Je fais un meeting avec tous mes concurrents. Je vois leurs forces, leurs faiblesses.
Mais attends, tu vas un peu vite là. Tu vas un peu vite. On va parler de ton projet. On va parler de la stratégie que tu as mis en place, de ta communication aussi, qui est bien faite, qui est bien rodée. Mais d'abord, dans cette émission, on a quand même envie d'abord s'intéresser à la personne que tu es. Tu as 22 ans, tu es bruxellois, tu as un parcours quand même un peu spécial. Tu viens pas d'une famille d'indépendants. Tes parents sont non sociaux, c'est ça ?
C'est ça. Donc ma mère, elle est familiale. Ouais. Mon père est électricien, il travaille dans les usines. Donc en fait, personne n'était entrepreneur dans ma famille. Et voir, c'était même tabou de dire que j'allais être indépendant. Donc ouais, c'était compliqué.
Non, attends, parce que là, il faut que tu m'expliques. Parce que souvent, on dit souvent, un entrepreneur, quoi qu'il arrive, doit avoir eu un moment dans sa vie un parent qui est entrepreneur. Sinon, tu n'étais pas entrepreneur. Toi, tu as bifurqué, tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce chemin-là ?
Alors, ma première expérience entrepreneuriale, en fait, je me rendais compte que c'était déjà dès l'âge de l'enfance.
Okay.
À 6 ans, je me levais à 5 heures du matin avec mon oncle pour aller vendre des objets à la brocante. Donc, okay, je faisais un petit peu mon argent de poche. Vers 9-10 ans, je faisais du porte-à-porte, je vendais des gâteaux. Et donc, je me faisais 100-200 euros à la journée. Donc, tu vois, j'ai toujours aimé vendre et me faire de l'argent. Donc, il y avait déjà cet aspect financier, ouais, qui venait. Et puis après, par la suite, durant mes études, je m'étais dit, pourquoi pas ? En fait, les études, c'est le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Il n'y a pas de risque. Je vivais encore chez ma mère. Et donc, a priori, lance-toi, enfin, y a aucun frein. Donc je commence en e-commerce avec du dropshipping. La plupart des gens connaissent le dropshipping.
Mais c'est quoi le dropshipping, vas-y, pour ceux qui ne connaissent pas.
Le dropshipping, c'est un business qui consiste en fait à faire appel à un fournisseur. Donc, ouais, t'as pas de stock et en fait ton fournisseur envoie la commande directement chez le client. Toi, tu es juste l'intermédiaire et bon, forcément, tu prends une petite marge dessus. Pas le modèle le plus sexy, mais ça marche.
Oui, c'est vrai que c'est un modèle qui est très critiqué, mais qui en même temps fonctionne encore aujourd'hui. Mais bon, ça a permis aussi à des escrocs de se faire beaucoup d'argent. T'as gagné un peu d'argent avec ce projet de dropshipping ou pas ?
J'ai suffisamment gagné d'argent. En fait, j'ai pas vraiment gagné d'argent.
Okay.
J'ai juste remboursé ce que j'avais investi dès le début. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de retour.
Et pour l'anecdote, tu t'es lancé dans quel produit ? Tu vendais quoi ?
Donc moi, je voulais me lancer dans le fitness.
Okay.
C'était des leggings pour en fait les gens qui faisaient du sport, pour avoir une certaine flexibilité, mm-hmm, dans les mouvements. Le problème, c'est que j'avais fait appel à un coach. Donc, il me contacte sur Instagram. Il me demande 3000 euros pour être accompagné. Moi, je lui dis, je suis jeune, j'ai envie d'investir. J'ai mes jobs étudiants, j'ai mis de côté. Let's go, c'est le moment rêvé pour se lancer. Et au bout d'un mois, j'ai plus de nouvelles. Et le mec se casse avec la caisse. Et je me retrouve avec une société et plus rien.
Avec le recul, on part dans tous les sens, les amis. Mais c'est vraiment une masterclass incroyable qu'on va vivre avec toi, Anis. Il y a encore tellement de sujets à aborder avec toi. Faire appel à des mentors, des gourous, parfois, c'est les termes qu'on sort. Avec le recul, maintenant, tu as eu une mauvaise expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles aux jeunes de commun, mais essayer de suivre des formations, suivre des entrepreneurs, des mentors, des gourous qui se présentent sur les réseaux en disant « Suivez-moi, avec moi, vous verrez, vous aurez les clés de la réussite et vous allez y arriver. » Ou là, maintenant, tu es quand même méfiant et tu donnerais d'autres conseils ?
Maintenant, avec le recul, je pense que la plupart des formations, on peut les trouver gratuitement sur, ouais, Internet. Donc, la première chose, c'est d'être curieux, c'est d'aller déjà se renseigner sur Internet. Il y a plein de ressources qui existent. Le problème, c'est que moi, j'avais fait appel à un expert pour gagner du temps, mais en fait, j'ai juste perdu beaucoup de temps, ouais, finalement. Donc, ce que je recommande, c'est d'abord commencer par vous-même, formez-vous avec tous les outils qui existent. Et puis après, si vous voulez un petit peu développer votre croissance, aller beaucoup plus loin, à ce moment-là, faites appel à quelqu'un et renseignez-vous sur la personne, pas comme moi.
Alors, je résume. Anis, t'as 22 ans. Tu t'es lancé avec une start-up qui veut un peu révolutionner le marché de la carte de visite. Tu t'es lancé très jeune, tu n'as pas forcément une famille d'entrepreneurs autour de toi, mais malgré tout, tu développes des compétences d'entrepreneur dès le plus jeune âge. Dès 6 ans, tu commences déjà à vendre des choses et tu te rends compte que finalement, c'est possible. Et c'est là que tes compétences, tu les développes petit à petit et puis tu arrives à l'âge de 20, 21, 22 et tu dis « Ok, je vais lancer ce projet Egonix ». On va y revenir dans un instant. On continue à creuser, à s'intéresser à l'entrepreneur que tu es. Parce que Anis, tu es marocain. Belge marocain, t'es fier d'avoir les deux nationalités, mais on sait aussi que dans ce milieu de l'entrepreneuriat, il y a encore beaucoup parfois de gens qui parlent de discrimination. Il y a encore beaucoup de gens victimes de ça. Moi, je veux juste savoir, toi aujourd'hui, est-ce que toi, tu as été victime de discrimination? Est-ce que ça a été plus dur pour toi en tant que belgo-marocain de pouvoir te développer dans cet univers entrepreneurial?
Alors, vivre la discrimination, pas dans mon cas. Maintenant, ressentir que certes, il y a une certaine différence parce que je suis pas blanc, ça peut se faire ressentir, mais c'est pas un frein en soi. Moi, je pense qu'on part du principe qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Mm-hmm. Et de toute manière, il ne faut pas se comparer aux autres parce que chacun son parcours, chacun ses chances, chacun ses propres opportunités. Et ces opportunités, il faut les créer soi-même. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a de la discrimination qui existe, certes, mais ce n'est en aucun cas un frein pour se lancer. Donc, je pense qu'il faut casser les barrières.
Et tu as un exemple, puisque tu le dis toi-même, tu dis finalement, tu ne l'as pas vraiment vécu, tu as eu des ressentis dans certaines situations. Est-ce que tu peux évoquer peut-être une situation où tu t'es dit justement, là, peut-être que ma couleur de peau peut poser problème?
Déjà, quand on est dans un événement où je suis le seul Marocain, c'est déjà un ressentiment. Maintenant, moi, il faut savoir que j'ai fait les scouts, j'ai fait du théâtre, et donc en fait, je me suis très très vite mélangé à plein de types d'origines différentes. Donc j'ai eu aucun problème avec ça, parce que je suis un peu un caméléon. Donc,
quelles sont les difficultés, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans cette aventure? Trouver l'argent? Le marketing, la communication, t'entourer finalement, trouver peut-être un développeur, puisqu'il y a aussi, on en parlera dans un instant, mais associé à ce projet de carte de visite qui est aussi physique, puisqu'on va avoir une carte physique avec une puce dedans, j'imagine, mais il y a toute une plateforme derrière aussi digitale, il fallait peut-être développer cette plateforme, ça coûte de l'argent. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées?
Le premier challenge, quand on vient pas d'une famille où il y a des entrepreneurs, quand moi je suis de base formateur, je suis éducateur de formation, et donc j'avais pas forcément un réseau d'entrepreneurs autour de moi, il fallait développer ce réseau-là.
Okay.
Aujourd'hui, sans réseau, c'est très très compliqué de se lancer. Donc, pendant un an, je me suis fixé le challenge de rencontrer 1000 personnes dans tous
c'est
les
énorme.
Événements possibles. Énorme, mais pas juste des discussions, c'est vraiment des rencontres, apprendre à connaître la personne. Et je me suis lancé dans un projet, en fait, mon rêve, c'était de lancer des conférences. Et donc, je me dis quoi ? Je m'associe avec Capital, je lance des événements, j'invite des entrepreneurs et en fait, j'invite 20, 30 jeunes. Et j'organise des networking, et donc là, je commence déjà...
Attends, parce que là, il faut qu'on creuse deux secondes. C'est vrai que le networking, je suis d'accord avec toi, puisque moi aussi, je suis entrepreneur maintenant depuis plus de 10 ans. C'est vrai que pour moi, le premier truc, c'est le réseau. Ça a toujours été ma force, et c'est ce qui m'a permis de me sauver de toutes les situations délicates dans lesquelles j'étais. Donc, on va un peu se focaliser deux secondes là-dessus. Tu t'es dit, OK, je vais aller dans des événements. Les événements, tu les trouvais comment? Sur Internet? T'allais sur quel site?
Ouais, en fait, déjà, je regardais tous les réseaux d'affaires.
Okay.
Les Asbel qui organisaient des événements.
Tu peux citer des noms, si tu veux.
Alors, forcément, il y a le B19 qui est très connu.
Et qui a ouvert une aile aussi dans le nord-ouest de Bruxelles aussi, parce que c'est vrai que le B19 était souvent dans le sud, à Uccle, et maintenant, ils sont dans le nord aussi, à Jette. Donc, avec John Bogart, qu'on salue, qui fait beaucoup pour les entrepreneurs. Donc, OK, donc B19, d'autres clubs.
B19, puis il y avait Capital aussi, qui organisait des événements au début. Donc,
avec Hassan Alilou, c'est
Hassan Alilou, c'est ça.
Qui est aussi une personnalité exceptionnelle. Vraiment, c'est un des gars les plus inspirants pour moi aujourd'hui à Bruxelles. Allez le suivre, on mettra aussi toutes les références en commentaire. B19, Capital.
Des masterminds organisés par Marvin, qui est le CEO de Fresheo.
Ouais, Marvin Ndiaye, qui fait partie de ces entrepreneurs bruxellois qui sont aussi très inspirants et qui donnent beaucoup, qui partagent beaucoup, même s'il est beaucoup dans l'immobilier, mais pas que. Mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi. Alors parfois, il est un peu foufou, parfois, il va un peu dans des délires, mais par contre, il a un parcours hyper inspirant, c'est vrai, t'as raison.
Donc voilà, l'idée c'était d'aller en fait se scotcher en fait à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, avaient déjà un réseau et donc finalement on ne peut que apprendre.
Je te lance un défi, c'est que quand cette vidéo sera publiée, je veux vraiment que tu ailles en commentaire mettre finalement un maximum de personnes, de clubs d'affaires, de lieux, d'endroits qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré, qui t'ont permis d'évoluer. Comme ça, les autres aussi qui veulent suivre finalement ton process, ils iront voir et puis finalement ils participeront à ces événements-là. Moi, je suis d'accord avec toi, ça a été un des premiers réflexes que j'ai fait aussi. Alors, il y a 10 ans, on était encore à l'époque de Facebook, tu vois, et je suivais toutes les pages de l'UCM, donc qui est un secrétariat social, de Securex, de Nestup, de Startup Weekend à l'époque aussi. Donc, je suivais tout ça. Et donc, j'avais sur Facebook régulièrement des événements qui m'étaient proposés. Et c'est vrai que j'étais tout le temps dans ces événements. Et à la fin, il y a même des gens qui viennent vers toi en disant, mais attends, mais je t'ai pas déjà vu quelque part.
Exactement.
On sait pas, mais tu fais quoi finalement? Je te vois tout le temps, mais tu fais quoi?
J'étais là tout le temps. Et donc, les gens, finalement, venaient chez moi et me disaient, mais tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et puis, moi, je pitchais. Et puis, en fait, ce qui est important, c'est de savoir se vendre. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Les gens n'arrivent pas à savoir se pitcher ou savoir se vendre. Et donc, forcément, les gens ne s'intéressent pas à eux. Donc, il y avait déjà un travail à faire sur soi. Et bon, moi, comme de nature, je suis un sales, j'ai un bon vendeur, ça allait, mais voilà, c'est des choses aussi à développer.
C'est vrai qu'il faut networker, mais ça ne s'improvise pas. Et une des choses à faire, c'est effectivement de maîtriser déjà le pitch de son projet, son storytelling, son histoire. C'est un vrai travail, on en parlera peut-être tout à l'heure. Regarde, en début d'émission, je t'ai demandé pitch moi en une phrase, tu m'as sorti un discours, il était clair, limpide, on a tout compris. Donc le pitch, c'est important. Mais attends deux secondes, parce que networker, c'est très bien, mais beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ça. T'arrivais solo, t'arrivais comment? C'était quoi ta stratégie?
Alors moi déjà j'aime bien m'habiller classe, déjà. Okay. C'est un premier point. Je pense que la première impression c'est la plus importante.
On est d'accord. Ouais.
Ensuite l'approche, bonjour, comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, on s'intéresse à l'autre. Ouais. On donne d'abord des questions ouvertes, on donne d'abord de la valeur avant d'aller pitcher son projet, alors on vend quoi que ce soit. Donc je m'intéresse aux gens et en plus...
Et t'arrivais facilement à rentrer dans... Ah ouais, les gens ils sont autour d'une table, toi t'es là, t'es tout seul et t'y allais quoi.
Je faisais bonjour et je serrais la main de tout le monde et en fait l'audace, les gens aiment bien l'audace, ouais. Les gens aiment bien les jeunes qui se lancent et qui cassent un peu les barrières. Au contraire ça fait toute la différence.
Complètement. Et alors ok, tu rentres dans le cercle, tu commences à discuter en t'intéressant aux gens autour de toi avant de parler de toi, automatiquement généralement après les gens... demande et toi tu fais quoi, donc là finalement c'est le moment où tu peux
là c'est le penalty, ouais.
Voilà, là il faut y aller, là il faut être bon et c'est là que vient l'idée de bien apprendre son pitch et de savoir bien se vendre.
Mais pourquoi c'est important? Parce que en allant d'abord vers l'autre tu comprends mieux qu'est-ce qu'ils font et donc, ouais. Après tu adaptes ton discours.
Tu fais des connexions aussi avec ton propre projet, tu sais aussi sur quelle personne te focaliser, celles avec lesquelles tu vas peut-être perdre du temps. Voilà, ça reste quand même. Il faut le faire avec une bonne intention, parce que tu as beaucoup de gens aussi qui entendent ce qu'on vient de dire et qui derrière vont pas y mettre le cœur et la vraie intention.
Il faut être authentique. En fait, ça se ressent directement. Moi, j'ai toujours été authentique parce que de base, je pars du principe qu'on apprend beaucoup des autres.
Ouais.
Et donc, voilà.
C'est vrai que de tout le monde, on peut apprendre. Et moi, je suis d'accord avec toi aussi que finalement, un entrepreneur, c'est d'abord et avant tout un mec qui défend des valeurs. On est ambassadeur d'un lifestyle de valeurs. Et je pense que quand on va dans ces événements-là, qu'on parle à des entrepreneurs, c'est ça qui doit ressortir. Et si on est vraiment habité par ça, en fait, c'est naturel de vraiment s'intéresser aux gens. Et c'est là que les vraies connexions se font. Et c'est la nuance que je fais parfois entre entrepreneur et businessman, où je me dis qu'un businessman, un entrepreneur doit être businessman, mais un businessman n'est pas forcément entrepreneur. Un businessman, c'est un shark, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour faire de la thune. Il en a rien à foutre de la terre, des gens, de tout ça. L'entrepreneur, parfois, il est peut-être trop focalisé sur ses valeurs et il fait pas du cash. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc le bon combo, c'est entrepreneur et businessman. Ok, tu rencontres des gens, ils sont pertinents, t'en fais quoi après de ces contacts?
En fait le deuxième challenge, c'est ok, maintenant tu t'es connecté avec les gens, ouais. Les gens savent ce que tu fais, il faut que les gens retiennent comment tu peux les aider, parce que sinon ils vont partir, ça les intéressera pas de se connecter avec toi. Donc moi je disais toujours tiens, je pense que ça peut être ça, c'est la phrase magique. Je pense qu'on pourra travailler ensemble. Ouais. À un moment donné, je sais qu'on pourra faire des choses ensemble. Mmh. Donc les gens retiennent ça. Et puis après, j'envoie un petit message de temps en temps. Quand je reviens à des événements, je peaufine un peu mon discours. Et là, je vais aller un peu plus en profondeur pour un peu mieux finalement renforcer cette relation-là. Et évidemment, dans l'entourage, il y a des personnes stratégiques que je vais aller cibler qui sont intéressantes dans mon projet.
Concrètement, tu dis j'envoie un message, ça veut dire que tu ajoutes les gens dans ton téléphone, t'envoies un SMS, t'envoies un message sur WhatsApp, t'envoies un mail, tu les ajoutes sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, tu vas jusque où dans la connexion?
Ça commence par LinkedIn dans un premier temps, parce que moi sur LinkedIn je fais beaucoup de storytelling et donc je me dis que ces personnes-là pourront un peu suivre le parcours entrepreneurial que j'ai. Ouais. Et deuxièmement, je convertissais en fait ces gens-là dans mes événements. Donc j'organisais des événements un peu comme un projet social et finalement je leur donnais de la valeur parce qu'en fait ils se connectaient avec d'autres gens. Et ça, c'est un deuxième point hyper important. Quand vous avez un réseau, vous avez une richesse. Et quand vous avez une richesse, eh bien, vous pouvez la distribuer aux autres.
Aussi.
C'est-à-dire que quand tu nettoies et que tu sais qu'il y a une personne, elle a un besoin, moi, dans mon réseau, j'ai une personne qui peut être pertinente, tu fais le match. Et là, la personne, elle est redevable. Ça fait partie de la psychologie.
Ouais.
Tu donnes et que la personne a eu quelque chose. Tu vois, elle a envie de faire un retour aussi.
Et de nouveau, il ne faut pas le faire avec cette idée de donner pour recevoir, mais en fait, normalement, c'est naturel. Si c'est fait avec les bonnes intentions, derrière, ça te revient d'une manière ou d'une autre.
Ça, si ça peut aider la personne, on est tous entrepreneurs, donc je pense que c'est important de s'entraider.
Complètement.
Moi, je pars du principe que avoir quelqu'un dans mon réseau qui stagne, et ça peut être pertinent de justement la mettre en relation.
C'est vrai que les gens sont souvent fermés et pensent pas 360 et pensent qu'à eux et à leurs petits projets, et effectivement il faut s'ouvrir et il faut pouvoir aussi aider les autres, et ça nous revient vraiment d'une manière ou d'une autre. Il y a un truc que moi j'ai quand même appris avec le temps, c'est vrai qu'au début j'étais hyper toujours généreuse, avec le temps, parce que moi j'étais un peu comme toi dans tous les événements, je connectais les gens. Forcément dans ton aventure entrepreneuriale il y a des hauts, il y a des bas, et à un moment donné dans les bas, donner sans rien derrière, c'est sympa, c'est bien pour le karma, pour tout ce que tu veux, mais parfois aussi donner, on peut négocier une commission. Si on provoque une opération commerciale, c'est légitime et c'est normal parfois aussi de dire tiens, je te connecte, je t'aide, si un deal qui se fait derrière, il y a l'idée de peut-être qu'un jour tu me le rendras d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, de base, il ne faut pas être gêné de dire, ok, ben, je prends 5, 10 ou 15% en fonction de ton implication. Tu es d'accord avec ça ou pas?
Moi, je suis d'accord et je pense que ça se fait encore beaucoup, le fait de prendre une commission sur une prestation. À partir du moment où les deux sont d'accord, bah, ouais, let's go, quoi. Rien n'empêche de demander.
Ok, je résume. Très jeune, tu passes à l'action. C'est important, le fait d'être dans l'action, tu développes des compétences. Et un entrepreneur, c'est pas forcément un mec qui fait des plans financiers. C'est un mec qui se lève le matin, qui est sociable, qui sait poser les bonnes questions, qui a de l'empathie, qui est à l'écoute. Ça, c'est les vraies compétences. Je pourrais t'en lister 150. Et ces compétences-là, on peut les développer dans plein d'événements de la vie, dans plein d'autres, dans plein d'autres activités. Tu as dit, tu fais du théâtre. Quand tu fais du théâtre, tu travailles la prise de parole en public. Exactement. Plus tard, quand tu pitches ton projet, c'est de la prise de parole en public. Tu as développé ça en faisant du théâtre, tu vois. Et puis toutes ces compétences, tu les as mis ensemble, tu dis ok, en fait je suis un entrepreneur et je peux y aller. Tu as réseauté, tu as développé ton réseau, ça t'a permis de faire des connexions et puis de faire évoluer ton projet. Tu as appris à pitcher aussi, à maîtriser ton pitch, ton histoire, ton storytelling. Il faut qu'on parle deux secondes d'un truc. L'argent, il arrive à quel moment dans ton projet? C'était facile ou pas? Comment tu as levé des fonds?
Alors, je vais un peu expliquer. Donc, Egonink, j'ai lancé ça il y a 5-6 mois. Ouais. Donc, à partir de novembre, bon, j'ai un prototype. Ce prototype-là, je le fais tester auprès de plein d'utilisateurs que je ne fais pas payer. Et l'idée, c'est d'avoir du feedback. Donc, dans un premier temps, avant de vendre, je veux d'abord avoir plein de retours.
Ton prototype, c'est quoi à ce moment-là?
Donc, prototype, c'est une carte, ouais, avec un profil que j'ai codé un peu moi-même, si okay, tu veux, que je faisais un peu sur mesure. Et donc, bah, moi, évidemment, je ne vais pas qu'à Bruxelles. Je vais aussi à Paris pour aller pitcher mon projet. En même temps, je fais un benchmark. Ouais. Et là, là, plein de gens sont hyper intéressés par le produit. Et là, il y a Fiverr France, donc un des leaders mondial dans le marché du freelancing. Ils mettent en relation des acheteurs et des prestataires. Et là, il me dit, il y a une ampoule qui s'illumine. Je pense que ta solution pourrait nous aider dans un salon. Et là, je suis hyper excité. Je me dis, bah, je suis honnête, je dis, c'est quand même un prototype. Ouais. On n'est pas encore prêt à 100%. Par contre, si on peut vous faire un truc sur mesure, let's go, quoi. Je prenais d'abord ses besoins en compte avant d'aller dire ok, on est parti.
Donc à ce moment-là, pour donner une image aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, tu as une carte de visite avec une puce NFC dedans.
C'est ça.
Les gens scannent ça avec le téléphone.
C'est ça.
Et ensuite, là, il y a une page qui s'ouvre, qui est un profil avec ta photo, tes coordonnées, etc. Et ils peuvent en un clic t'ajouter dans leur contact.
Exactement.
Le prototype, à ce moment-là, il se limite à ça.
Donc, on avait des fonctionnalités où on a intégré aussi des images et des vidéos. Et donc, okay, les gens, en fait, ça leur permettrait de mieux visualiser bah, ton activité.
Ça fait un mini-site, quoi.
C'est ça, un mini-site. Et après, moi, l'idée, c'était d'avoir aussi de la data. Donc, je pouvais aussi récolter les emails, les noms, les prénoms dans mon CRM Egonix que je connectais avec un Excel. Au début, je bidouillais un petit peu, mais l'idée, c'est après de relancer ces personnes-là parce que c'est de potentiels clients.
Ok, parce que c'est ça aussi. Parce que dans ce business-là, il y a des gens qui vont nous regarder et qui vont nous dire « Mais frérot, t'as rien inventé. Ça existe depuis maintenant des années. » Je me souviens même, je crois, il y a 3-4 ans, je crois, mon meilleur ami a offert une carte de visite comme ça avec puce NFC à son meilleur ami. À ce moment-là, moi, j'ai pas trop tilté sur le truc. Et puis après, là, c'est vrai qu'en ce moment, je vois plein de pubs sur TikTok de gens qui se lancent dans ce business-là. Mais t'as été un peu plus loin parce que tu t'es rendu compte finalement d'un autre problème. C'est que on scanne, c'est sympa, on n'a pas cette pile de cartes de visite, on règle un problème, l'écologie, tout ça, c'est sympa. Mais après, il y avait la problématique de retrouver les contacts.
Qu'est-ce qui se passe après? Comment tu arrives à retrouver ces personnes-là? Comment tu arrives à laisser du contexte, à laisser des notes? Comment tu transformes ces gens-là en opportunités? L'idée avec une carte NFC, alors il n'y a aucune innovation pour moi dans la carte NFC, ça existe depuis des décennies, parce que la carte NFC, c'est aussi une carte qui est utilisée dans les cartes de banque. Nous, on va vraiment innover dans le logiciel, dans les fonctionnalités. Et aujourd'hui, on trouve ça hyper important de créer une expérience lors des connexions. On va intégrer des photos, des vidéos, des fonctionnalités de gestion de contact. Une fois que ton contact, tu l'as enregistré dans ton CRM Egonix, eh bien, tu peux y attribuer des tags, du contexte, des notes. Ça te permet ensuite de créer des groupes de contacts où en fait, tu vas pouvoir segmenter les investisseurs, les clients, les partenaires. En fait, tu es beaucoup plus productif. Tu peux même partager des contacts très facilement. Si demain, un jour, tu me demandes, ah, tiens, Annie, je cherche un développeur, par exemple, bah, dans mon groupe de contacts dev, je vais t'envoyer un back-end qui pourra répondre à tes besoins. Et donc, tu vois, c'est un écosystème qui grandit. Et c'est pour ça que Fiverr ont kiffé la solution, parce qu'ils avaient une génération de leads qui se faisait automatiquement, pas de friction. Et là, Fiverr a parlé du projet. Ils ont dit, écoute, Annie, c'est un succès, ton prototype, c'est un produit market fit, on sait que c'est validé. Mm-hmm. On va présenter ça à Londres, à New York et en Allemagne.
Et c'est parti.
Et là, alors, quand je reviens de Bruxelles,
t'as le feu en toi et l'aventure, elle démarre vraiment, c'est solide et t'y vas. Le prototype, Ce que je retiens, donc, c'est que tu as démarré avec un prototype. Tu n'as pas attendu d'avoir un produit fini pour te dire, OK, mon site, il est beau, mon logo, il est magnifique, ma carte, elle est en bambou avec un petit vernis dessus, machin. Non, tu as dit, j'y vais, proto, je teste le marché, je vois les feedbacks. Exactement. Je me plante, on me dit que c'est de la merde, je prends et j'améliore, je ne lâcherai pas quoi qu'il arrive. Ce prototype, il avait un coût quand même. Comment, toi, tu me dis, tes sales, t'es pas techos, tu développes pas. Comment tu as réussi à imprimer cette carte, à développer cette plateforme? C'est qui est autour de toi?
Alors, au moment où je développe mon prototype, ouais. Moi, j'essaie de m'inscrire dans un incubateur pour avoir un peu de structure.
Ok, un incubateur, c'est, si tu dois l'expliquer.
C'est une structure d'accompagnement ouais. pour les startups.
Ok.
Et donc, j'apprends un petit peu la finance. En fait, moi, je ne suis pas bon en finance. Et donc, il fallait que je complète des pains dans mon business. Mm-hmm. Et donc, là, je développe un prototype avec quelqu'un qui m'aide. Il me dit, écoute, Anis, on pourrait faire le profil comme ça. On configure un truc.
Donc là, tu trouves quelqu'un qui a un profil de développeur.
C'est ça.
Et t'arrives avec ton pitch à le convaincre de rentrer dans ton aventure. À ce moment-là, on commence pas à parler de structure, on commence pas à parler de part. On est d'accord ? Ou déjà à ce moment-là, vous êtes déjà occupé à dire je te donne 70, je prends 30. Enfin,
ouais, pas non. du tout. Il m'a dit écoute, si ça peut t'aider, on peut faire ça comme ça, c'est ouais. simple, tu testes ton marché et puis après.
Et puis on voit plus tard.
Et
quoi.
Puis après, on développe. Quoi.
Ok. Donc tu trouves un gars, tu arrives à le convaincre simplement, il te rejoint et puis vous avez votre prototype.
On nous a mis en relation en fait.
Okay,
donc ouais. bah, voilà, comme quoi le réseau c'est important, bah, finalement ça m'a permis de vite tester mon prototype. Et puis après, dès que j'avais validé la solution, là j'étais voir une agence qui a développé l'application. Donc là, on vient de terminer l'application.
Une agence, ça coûte de l'argent. Une application comme celle que tu évoques, ça doit coûter allez, 10, 15, 20K. Enfin, tu vois. Surtout si tu passes via une agence. Comment tu finances ce projet ?
Alors moi, il faut savoir que j'ai entrepris quand j'étais étudiant. Et donc, ouais. Je travaillais chez TOS, qui est une boutique de luxe.
Okay.
Chaque été, et même pendant l'année, je mettais de côté. Mm-hmm. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore l'idée précise, mais je sais que j'avais de l'argent de réserve.
Donc ça aurait pu être à ce moment-là de l'immobilier, ça aurait pu être à ce moment-là de l'entrepreneuriat.
Franchement, ouais.
Et puis le virus t'a touché, tu dis, tu sais quoi, j'ai un petit capital de départ. Moi, je crois dans ce projet, parce que je l'ai testé, je l'ai validé.
Exact.
Et donc là, je mets mon argent dans ce projet et j'y vais, let's go, quoi.
C'est ça. Bon, j'ai comparé les prix, hein, parce que ça allait ouais. de 3 000 à 100 000 € pour le projet, pour ouais. développer le logiciel. Donc, tu vois, tu peux pas non plus avoir trop de flexibilité. J'ai pu trouver une agence qui s'est un peu adaptée à ma situation avec un étalement de paiement. Là, aujourd'hui, j'ai pratiquement tout financé et donc on a une solution qui a pu être testée et qui sera bientôt lancée prochainement.
À quel moment tu décides de créer la structure ? Quel est l'élément dans ton parcours qui te fait dire « Ok, maintenant, je peux créer une société ?»
Moi, je ne suis pas le bon exemple parce que j'ai créé ma société quand je me suis lancé en dropshipping parce que okay. le coach m'a dit « il te faut une société pour les fournisseurs en Chine
ouais. ».
Et en fait, je crée ma société à 20 ans, sans base en comptabilité, en rien. J'avais juste ma gestion de base que j'ai étudiée pendant 2 semaines en jury ouais. centrale.
Et la gestion de base, maintenant, bonne nouvelle, à Bruxelles, plus besoin. Plus besoin.
Ouais.
Donc ok, donc tu avais déjà ta société et finalement tu as ta structure et donc...
Comme j'avais déjà ma société, je me suis dit bon, pour faire un peu d'argent, je vais quand même utiliser les compétences que j'ai, mm-hmm. c'est la vente.
Ouais.
J'étais hyper bon en vente et donc je générais plusieurs milliers d'euros en commission, ce que j'ai pas dit, donc j'ai réinvesti ces commissions-là
aussi
dans mon business.
Ok, lourd. Et aujourd'hui, Egonix, vous en êtes où les gars? Ça sort, c'est, on peut commander, ça se passe comment?
Ouais, alors... En décembre, ouais. je décide de lancer un crowdfunding.
Okay. Donc,
je me dis, écoute, on va lever un peu d'argent auprès de la communauté, auprès de mes amis, de mes proches.
Attends, concrètement, c'est quoi alors le crowdfunding pour que les gens comprennent ?
Un crowdfunding, c'est une méthode de financement en fait, okay. qui permet d'acheter, en fait, soit de précommander ton produit ou de financer en donation. Ouais. Et en fait, tu arrives à avoir un certain budget. Une fois que tu as atteint le budget, eh bien, tu récupères.
Et il existe pas mal de plateformes qui font ça. Toi, tu as choisi laquelle ?
Ulule.
Tu as choisi Ulule qui est, on va dire, un des leaders. Et donc là, tu présentes ton projet en fait, sur cette plateforme avec plusieurs, finalement,
contreparties.
Ouais. Et là, les gens peuvent miser sur toi. Et quand le projet se réalise, ben, ils ont leur contrepartie ou pas s'ils ne se réalisent pas. Parce que, parfois aussi, ils ne se réalisent pas. Mmh. C'est hyper intéressant parce que ça permet encore une fois, et c'est ça, toute ta logique est hyper smart depuis le début. C'est pour ça que je voulais te recevoir. Tu as toujours été dans très, très vite tester le marché.
Exact.
De plein de manières, avec ton prototype, le crowdfunding aussi, tu vois très vite si les gens sont prêts à payer.
Exact.
Et à quel prix. Et si tu vois qu'ils ne payent pas ou que machin, bah, oh, de nouveau, tu rentres dans une démarche scientifique. Pourquoi ils n'ont pas payé? Parce que mon produit est pourri ou parce que mon prix est trop cher? Et ta date, machin, ça. Et finalement,
Bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Ouais. J'ai lancé mon crowdfunding à la mi-décembre pendant les périodes de fêtes où là, c'est vraiment mort.
Okay.
J'ai plus un pet, quoi. Mais voilà. Je pense qu'à partir du moment où tu as un objectif, il faut te lancer. Je veux dire, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Et puis, j'ai lancé mon crowdfunding. À ce moment-là, j'avais aussi un réseau de mentors. Donc, Leïla Meden qui me suit aussi dans mon parcours.
une femme incroyable.
C'est important d'avoir un mentor dans son parcours entrepreneurial. Vraiment, ça vous fera gagner des années-lumière, je le répéterai jamais assez.
Mais il faut trouver un bon mentor, parce que tu as des mentors aussi qui peuvent te freiner, te casser, t'amener sur des chemins qui ne sont pas les bons. Et c'est aussi tout un talent aussi de savoir sentir. Et on fera certainement un jour un sujet là-dessus, parce que je vois que le temps il passe et on doit enchaîner. Mais c'est vrai qu'à un moment donné... se poser sur la question de comment trouver son bon mentor. On pourrait parler pendant une heure, je crois, de ça. Ok, crowdfunding, t'es aidé, etc., etc. Tu finalises. T'as levé combien avec le crowdfunding?
On a levé 2300.
Ok, donc, lourd.
Ouais, en quelques semaines.
Ça fait combien de cartes de visite, ça, alors?
En fait, il y avait plusieurs contreparties. Okay. Mais en gros, ouais, ça devrait faire peut-être 50 cartes, je crois, un truc comme ça.
Ok, donc
il y a des gens qui ont financé aussi par pur. Des gens que je connaissais même pas dans le crowdfunding qui ont financé.
Envie de soutenir. Ça, c'est
juste envie de soutenir.
Mais ça, c'est fou.
Projet.
Mais oui.
Tu vois, quand tu fais une campagne de crowdfunding, tu parles de ton histoire avant de parler du produit. Moi, je leur dis que j'étais éducateur, j'étais étudiant, que j'étais sales aussi et que je vais lancer ce produit-là parce que je sais qu'il y a une innovation et je voulais aller beaucoup plus loin dans le projet.
Il y a 10 ans, il y a un mec, un jour, il m'envoie un message sur Messenger. Il me dit: je te suis de loin. On se connaît pas, je te kiffe, je te fais un versement de 25 euros.
Tu vois, c'est incroyable.
Et il me verse 25 euros. J'ai dit: mais pourquoi tu me verses 25 euros? J'ai dit: tu veux quoi en échange? Il dit rien. Non, en fait, j'adore ton parcours et j'ai juste envie de te soutenir.
Mais au-delà de l'aspect financier, c'est l'aspect symbolique. Moi, j'ai vu des centaines de gens me soutenir dans le projet et des gens qui ne me connaissaient pas parce qu'ils avaient vu un truc sur LinkedIn. Honnêtement, même d'un point de vue moral, ça te booste, ça te donne l'énergie. Ouais. En plus, évidemment que ça crédibilise ton projet.
Énorme. Crowdfunding qui se termine. En parallèle, tu continues le développement de ta plateforme pour qu'elle arrive à un niveau justement qui soit d'un niveau genre V1.
Alors, je veux dire ça un peu de manière crue, mais en fait, moi, je ne voulais pas lancer un projet s'il n'était pas suffisamment compétitif et s'il n'était pas suffisamment innovant dans l'approche.
Ouais.
Donc, dès lors que j'ai développé l'application, on a fait en sorte de développer l'application pour qu'elle soit suffisamment innovante dans le marché européen et américain. C'est pour ça que je dis, il faut faire une bonne analyse concurrentielle et voir un petit peu ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, quand on va se lancer, c'est vraiment pour tout casser. L'objectif, c'est d'être leader en Belgique, mais également en Europe.
L'analyse concurrentielle, je pourrais parler des heures avec toi, ça me rend fou qu'on soit limité par le temps, mais tu sais quoi, on s'en fout, c'est pertinent, on continue. Quand tu parles d'analyse concurrentielle, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit: j'ai été voir tous mes concurrents.
Exact.
Ok, mais quand tu vas les voir, tu dis quoi? Tu dis: je suis journaliste, je viens me renseigner? Ou tu dis vraiment: je vais être un futur concurrent et j'ai envie de savoir comment vous fonctionnez? Comment tu fais?
Faut être un peu plus discret sur ça, mais l'idée, c'est de te faire passer comme un étudiant ou un entrepreneur.
Ouais.
Moi, j'étais sales, et donc je dis: bah, forcément, les sales, c'est un peu la cible pour ce genre de produit. Et donc, je leur dis: bah, en fait, l'idée, c'est de voir comment ils pitchent le projet.
Ouais.
Et les mecs, ils ne prennent même pas en compte tes besoins. Déjà, ça commence mal. Déjà, quand ils ne comprennent pas ce que je fais comme activité et qu'ils me vendent les fonctionnalités, je dis: ah, bizarre, le mec, il ne sait même pas de quoi j'ai besoin et il me vend son produit. Donc, je savais déjà quel concurrent était très, très mauvais en process au niveau marketing et commercial.
Ah oui, ça, c'est pertinent. C'est-à-dire que même dans ta manière de t'infiltrer, finalement, tu regardais quoi? Tu regardais leur manière de pitcher, donc leur storytelling. Tu regardais quoi d'autre?
Je regardais les process, ce qu'ils mettaient en place durant le meeting, comment ils présentaient le produit et le service. Quelles étaient leurs fonctionnalités, avec qui ils avaient déjà travaillé comme client, et j'avais posé des questions pièges sur le fonctionnement du NFC, voir si c'était suffisamment bon ou si c'était juste une entreprise qui proposait des cartes NFC. Il y a plein d'entreprises qui proposent juste des cartes NFC parce qu'il y a une opportunité.
Il y avait une niche et ils l'ont saisie sans vraiment s'intéresser au modèle et au vrai pain des gens qui utilisent cette carte.
Exactement.
Et attends, ça c'est dingue. Toi, t'es smart, toi. Toi, t'es très malin. Mais c'est vrai que parfois, on se dit: ouais, mais je vais quand même pas aller toquer à la porte du concurrent.
Non.
Et les gens, ils se ferment, en fait. Ils réfléchissent pas plus loin.
Et j'allais encore plus loin. Je leur dis: mais tiens, et votre concurrent, là, c'est quoi? Comment vous différenciez? Et là, quand le mec, il panique, il sait plus quoi. Ok, lui, il a pas d'avantage concurrentiel.
C'est bon, on va aller voir l'autre.
Tu vois, il perdait ses moyens pendant le meeting.
Faut le faire. Aujourd'hui, t'as un réseau. T'as un mentor, plusieurs peut-être même. Tu as un projet qui est sur le point d'être lancé, puisque là tu vas faire un événement là prochainement.
En fait, le projet a déjà été lancé en novembre, donc j'ai déjà fait des précommandes et donc j'avais déjà vendu une cinquantaine de cartes à ce moment-là, en prototype, même pas avec la solution finale. Donc comme quoi, il faut toujours tester. Et ces gens-là, en fait, ont finalement utilisé la carte. Les gens qui se sont networkés, ils ont dit: mais ta carte, c'est sympa, on aimerait avoir les mêmes fonctionnalités.
Ouais.
Et là, il y a un effet décuplé. Et donc là, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir ce lancement officiel d'Egonix parce qu'on intégrera toutes les fonctionnalités.
Alors, je ne sais pas trop quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Est-ce qu'elle sera publiée après ton événement où tu vas rassembler en fait tes ambassadeurs, les premiers qui ont acheté cette carte? Donc voilà, est-ce que ce sera avant ou après? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la finalité de tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu as fini ton crowdfunding. Et là, pour continuer à fédérer cette communauté, ces ambassadeurs, tu fais un événement physique où tu fais venir Jérémy Van Omdenbosch, encore un autre nom voilà, c'est un des leaders, on va dire, dans l'apprentissage du réseautage. On va mettre son nom ici en commentaire aussi. Il fait des formations régulièrement. Tu l'as invité pour pitcher.
En fait, j'étais à l'audace. Jérémy, ouais. Je le connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup et j'ai envoyé un petit message Instagram comme quoi j'étais hyper intéressé, ouais, d'avoir comme conférencier durant mon événement de lancement parce que c'était pertinent.
Tu m'as pas invité, Alice. Tu m'as pas invité.
Ah merde, David. Je pensais qu'il allait oublier. Okay. Et donc il est hyper content, il me dit écoute ouais, ça, pour cette date là c'est bon.
Ok, parfait, tu fais cet événement et puis après le lancement, donc ici qui est prévu le lancement vraiment de la plateforme mars.
Ouais, donc on fait l'événement de lancement le 21 février. Okay. À partir de là, on pourra traiter toutes les commandes. J'ai aussi beaucoup de cartes en précommande que je dois traiter, ouais, dans l'ordre à partir de décembre jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai quand même du boulot qui m'attend.
Parfait. Vous êtes une entreprise, vous êtes entrepreneur solo, vous êtes un artiste aussi. Vous êtes un prof aussi qui donne des cours particuliers. Bref, toutes les personnes qui, à un moment donné, ont des cartes de visite papier, bah, intéressez-vous à Egonix. On peut te suivre où? Sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, ouais. LinkedIn, Anis Adou, ou même sur egonixcarts.com, sur notre site. On mettra un petit peu à jour finalement toutes les nouveautés, ouais, les produits également. Il faut savoir qu'avec Egonix, on va également proposer de nouvelles matières. Donc, en effet, comme tu l'as dit, le bambou, mais aussi des cartes métal premium. Mm-hmm. Aujourd'hui, la carte métal, elle a beaucoup de succès, ouais, parce qu'il y a un côté assez égo, mais ouais, je le dis encore une fois, la première impression, elle est fondamentale.
Clairement.
Et surtout, on a pu déjà travailler avec des grosses entreprises, des startups, des scale-up, des commerciaux, des agents immobiliers. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de cibles qui ont été satisfaites de la solution. Et on espère pouvoir continuer comme ça sur les prochaines années pour aller beaucoup plus loin.
Écoute, moi, j'attends ma carte en tout cas. Dès qu'elle est lancée,
plaisir,
je la veux. Je te souhaite le meilleur. Tu es hyper inspirant. Je vais aller te suivre sur LinkedIn directement parce que tu dis aussi que tu prends le temps de partager aussi ton, ouais, aventure. Donc allez le suivre aussi lui personnellement sur LinkedIn et pas que Egonix, puisque si vous cherchez à lancer votre projet, ben c'est l'occasion aussi de profiter de tout le travail que lui fait finalement.
Je me ferai un plaisir de faire gagner du temps à certains entrepreneurs.
Mais clairement,
si ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, vraiment je prends le temps de répondre aux questions.
C'est encore un bon conseil, c'est finalement de suivre ces entrepreneurs qui prennent le temps. Il y en a beaucoup, hein. On pense à Emna Evrard aussi, qu'on connaît beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat parce qu'elle a lancé Casidomi et puis elle partage aussi son aventure, elle raconte. Bah, ton aventure maintenant, j'ai hâte de la suivre, en tout cas sur les réseaux. Kayef, tu reviens quand tu veux, quand le projet évolue ou d'autres projets, parce que toi, j'ai bien capté que Egonix, c'est que voilà, c'est un projet parmi tant d'autres qui vont arriver.
Plein d'autres projets.
Donc,
côté,
ouais. Et alors aussi, je voulais juste te dire aussi ce que j'ai apprécié, c'est que je t'ai invité et très très vite, t'as eu le bon réflexe de penser aux gens autour de toi et t'as proposé un pote à toi qui a aussi, exact, sa start-up, de venir ici et de pouvoir profiter de finalement cette petite exposition bien sympathique. Et encore une fois, voilà, ça fait partie des valeurs que moi j'apprécie et pour ça, je suis content de t'avoir dans cette émission.
Pareil, merci de m'avoir invité, David. Ça fait vraiment plaisir d'être ici en tout cas.
Anis, à bientôt et tu reviens quand tu veux. Ciao, ciao, Anis.
Plaisir,
ciao. Bravo, poulet, c'était super.
Merci, David. Super mort. Ouais. Ouais, franchement, nouvelle expérience. J'ai débloqué un truc là.
Ouais.
Ça passe un peu vite. Je t'avoue qu'on pourrait parler pendant des heures.
Mais oui, mais là, on a parlé combien de temps là? Il y a combien de temps là sur le règle de...
Moi, je vois pas le temps passer quand je suis filmé.
38 minutes et on a parlé un peu, quoi. 10-15 minutes. Donc, Mais moi, en plus, l'entrepreneuriat, ça me passionne. Donc en vrai, moi, je suis tellement.
Tu veux pas un jour.
Moi, j'ai fait un spectacle aussi. Je suis monté sur scène pour raconter mes galères d'entrepreneur.
Mais non.